RFI, grand reportage, Charlotte Hydrac.
Bonjour, grand reportage nous emmène aujourd'hui aux Philippines. Depuis l'élection de Rodrigo Duterte en mai dernier à la tête du pays, la guerre anti-drogue a tué près de 3000 personnes selon les derniers chiffres officiels, soit, imaginez-vous, près de 44 morts par jour. Selon Rodrigo Duterte, la drogue a transformé l'archipel en narco-état et serait à l'origine de tous les maux. Il promet donc une guerre sans merci contre la drogue assimilée à un permis de tuer. Mais depuis son arrivé au pouvoir, les médias philippins ont lancé leur propre décompte de morts tués par la police ou des groupes de vigilance. À Manille, la capitale, ces exécutions surviennent en pleine rue, souvent la nuit, et les premières victimes sont les plus pauvres. Guerre anti-drogue, exécution de rue à Manille, c'est un grand reportage de Marianne Dardar.
Hello.
Allô?
Oh.
Oui, c'est où exactement?
Hello.
Manille. Un vendredi soir à 22h, les journalistes viennent de commencer leur garde. Moins de 5 minutes après, première alerte. Un homme a été tué à Pasay, au sud-ouest de la capitale. Reste à confirmer la rue exacte avant de se rendre sur place en convoi.
Cabrera Street.
Rue Cabrera.
La voiture s'arrête dans une rue passante d'un quartier résidentiel. En travers de la route, il y a un sidecar. On voit une jambe qui dépasse. C'est la victime. Les badauds affluent. Un caméraman tente de se faufiler derrière un arbre pour filmer. Le chef du barangay, l'équivalent des quartiers aux Philippines, livre les premières informations. José Ang.
Deux hommes à moto ont coupé la route à un triporteur avant de tirer sur le chauffeur.
Au loin, un cri déchirant. Celui d'une femme qui vient d'apprendre le meurtre de son mari. Elle se précipite sur les lieux, mais reste tenue à l'écart. Le temps pour la police scientifique de collecter des indices. L'inspecteur en chef, Rolando Baula, chargé de l'enquête.
Victime?
C'est quoi le nom de la victime?
Redentor.
Redentor Manalang.
Redentor Manalang.
Quel âge?
50 ans.
He is 15 years old. During the search, the soccer team found a piece of.
En fouillant le corps, nous venons de trouver de la méthamphétamine. C'est une drogue illégale qu'on appelle chabu ici aux Philippines. Et près du cadavre, nous avons trouvé également une pancarte en carton qui affirme que la victime vendait de la drogue. Nous conduisons toujours une enquête approfondie pour établir comment le crime a été commis. Pour cela, nous devons d'abord vérifier les antécédents de la personne tuée, si elle avait des ennemis. Nous cherchons toujours d'autres éléments d'explication.
Retour au commissariat central. Dans un bâtiment à part, c'est là que les journalistes font le pied de grue et reçoivent les informations. Pour passer le temps, mais aussi se remettre de leurs émotions, ils chantent et jouent à la guitare. Mais la pause est interrompue. Nouvelle alerte à Pasay, cette fois le long du grand boulevard près de la mer. Un homme, dont on ignore l'identité, a été abattu par deux individus à moto. Là encore, les assassins ont laissé une pancarte derrière eux, accusant la victime d'être un vendeur de drogue. C'est devenu la signature des tueurs à gages. Les pompes funèbres attendent le feu vert pour évacuer le corps. Depuis le lancement de cette guerre anti-drogue, à Manille, les entreprises de ce secteur sont parfois surchargées de travail.
Des cadavres, on en a plein toute la semaine. Et là, tout de suite, on a encore deux autres corps à aller chercher ailleurs.
Alejandro Armenita est gérant de pompes funèbres. Ces derniers jours, il a dû embaucher un employé supplémentaire.
Avant d'être élu président, Rodrigo Duterte avait dit que les pompes funèbres gagneraient plus d'argent. Comment je vis la situation personnellement? Pour moi, c'est juste du travail. C'est ma besogne et je le fais pour le président Rodrigo Duterte.
Il est 1h30 et c'est le troisième mort de la soirée. Nous sommes tout proches d'une des autoroutes les plus fréquentées de Manille. Michael Ciaron a été abattu alors qu'il était sorti acheter de quoi dîner. Sa compagne, Jeneline Olaires, témoigne, encerclée par les caméras.
Michael était un conducteur de pousse-pousse. Aujourd'hui, il venait de gagner 80 pesos, à peine 1,30€ pour acheter de quoi tous nous nourrir. Michael n'a jamais vendu de drogue. Il en a utilisé, oui, mais ce n'était pas un revendeur.
Nous sommes le 23 juillet. Cette nuit-là, à Manille, la guerre antidrogue a tué au moins 6 personnes. Changement de décor. Manille, la nuit, c'est aussi des ruelles encombrées par de grandes tablées de voisins jouant au bingo ou encore au billard. Le barangay 43 est un quartier populaire de Pasay. Malgré les apparences, nous sommes à une veillée funéraire, celle d'Eric Sisson. Son cercueil blanc est exposé dehors. Dessus, on a déposé un poussin pour réclamer justice. Aux Philippines, on dit que l'oiseau dévore la conscience de l'assassin. Eric Sisson n'a pas été abattu par des tueurs à gages, mais par la police, lors d'une opération anti-drogue. Selon les policiers, lorsqu'ils se sont approchés de lui, au lieu de s'arrêter, Eric Sisson a tenté de fuir en grimpant sur le toit d'un voisin. Puis il aurait fait feu sur les forces de l'ordre avec sa propre arme. Une version remise en cause par cet enregistrement audio. On y entend un homme hurler « Je me rends » avant d'être abattu par une dizaine de balles. Une femme est assise près du cercueil. Elle s'appelle Rachel Bermois, elle a 18 ans. C'est la fiancée d'Eric. Le couple venait de fêter le premier anniversaire du bébé.
Non, mon mari n'était pas vendeur de drogue. Pourquoi l'ont-ils tué d'une dizaine de balles? Il n'avait rien fait.
Les voisins décrivent un jeune homme sans histoire, discret, et s'interrogent eux aussi, comme Marie-Jane Bucco, membre du comité de quartier.
Non, je suis catégorique. Eric ne possédait pas d'armes. C'était un adolescent comme un autre. Eric était chauffeur de sidecar taxi. Comment aurait-il pu se payer une arme?
Fait inédit, 3 policiers ont été relevés de leurs fonctions dans cette affaire. Mais les officiers maintiennent qu'Eric Sisson était armé. Pour cela, ils se basent sur les résultats de l'autopsie. Ces résultats révèlent la présence de résidus de poudre de munitions. C'est le jour des obsèques d'Eric Sisson. Coïncidence, dans le même cimetière arrive une autre famille endeuillée, celle de Michael Ciaron. Également conducteur de taxi sidecar, Michael Ciaron a été tué par 2 inconnus à moto fin juillet, lors de la nuit de garde que nous avions passée au commissariat central de Manille. Depuis la mort de Michael Ciaron, 40 jours se sont écoulés. Aux Philippines, c'est l'occasion d'un rite spécifique au cimetière. Des bougies sont allumées devant la photo du proche disparu. Une grande majorité de Philippins se disent catholiques. Beaucoup sont également superstitieux. Sans cet hommage, ils craignent que l'âme du défunt ne les hante à jamais. Pour parvenir à l'endroit où est enterré Michael Ciaron, difficile de se frayer un chemin et d'enjamber d'autres tombes sans marcher dessus, car dans les cimetières philippins, les caveaux sont souvent construits le long d'un mur, les uns sur les autres. Le père de Michael Ciaron, Solomon Ciaron, évoque l'absence de son fils au quotidien.
Le plus dur, c'est quand je me couche. À chaque fois que je m'allonge et que je ferme les yeux, tout ce que je vois, c'est le visage de mon fils. C'est très dur.
Ama, isang magulang na ama, ganun ang sitwasyon gagawin mo sa anak.
Pour les criminels, il est possible de se défendre, ou il est encore temps pour eux de se ranger. Mon fils n'aura eu aucune de ces deux chances.
Devant leur frêle bâtisse en tôle, Jeneline Olaires, la compagne de Michael, évoque leur rêve brisé. Jeneline a quitté la ville pour tenter de tourner la page.
De l'extérieur, notre maison n'est pas très belle, car elle est construite au milieu des détritus juste au-dessus de l'eau. À l'intérieur, pourtant, je la trouve très belle. Avec Michael, nous aimions passer du temps à ranger notre chez-nous. Au début, nous n'avions même pas de quoi nous payer des clous. Michael m'a appris à me contenter de peu.
Avant sa mort, Michael Ciaron était dans sa famille le seul à avoir voté pour que Rodrigo Duterte soit élu président. Pour autant, Solomon Ciaron, le père de Michael Ciaron, ne tient pas le président pour responsable direct de la mort de son fils.
Je n'ai rien de mal à dire au sujet de notre président, Rodrigo Duterte. Je crois en sa lutte pour débarrasser le pays de la drogue et j'espère vraiment qu'on y parviendra. Tuez la drogue, mais ne tuez pas les gens, s'il vous plaît.
Pour le moment, l'appel de Solomon Ciaron est resté lettre morte. Alors que le gouvernement philippin promet de ne pas relâcher la pression dans la guerre anti-drogue, les exécutions de rue visant les plus pauvres ne sont pas un phénomène nouveau aux Philippines. Mais pour l'heure, il semble difficile d'y mettre fin. Guerre anti-drogue, exécution de rue à Manille, un grand reportage de Marianne Dardar, réalisation Pierre Chaffanjon.
Bonjour Marianne Dardar.
Bonjour Charlotte.
Suivre les exécutions de rue et de nuit, on imagine que ça n'a pas été très facile. Alors dans quelles conditions vous avez réalisé ce reportage ?
Eh bien, ce que je voulais faire d'abord, c'était parler aux victimes. Au-delà des chiffres du bilan humain, le problème, c'est l'omerta. Par peur, certaines refusent de témoigner. Il fallait donc suivre leur histoire depuis le début. Pas forcément le plus gai, mais je me suis donc jointe aux photographes locaux chargés de suivre ces exécutions. C'est d'ailleurs également comme cela que le décompte des morts de la guerre anti-drogue est fait au plan national.
Est-ce que ces victimes reçoivent de l'aide ?
Alors, il y a beaucoup de solidarité, mais les victimes que j'ai rencontrées souvent me disent qu'elles n'ont reçu aucune aide d'ONG. Il faut savoir également que les obsèques coûtent très cher pour les plus pauvres et certaines entreprises de pompes funèbres se retrouvent avec des corps non réclamés. L'autre problème, c'est également le manque d'associations de victimes pour le moment. Par peur, chacun préfère rester isolé de son côté. J'ai par exemple posé la question à Jeneline. Elle raconte que pour le moment, elle a arrêté de suivre les informations et qu'elle souhaite rester uniquement avec ses proches.
Une enquête, Marianne Dardard, a été lancée par la Commission des droits de l'homme, par le Sénat aussi. Où est-ce qu'on en est à ce niveau-là?
Alors, la Commission des droits de l'homme philippine, pour rappel, c'est une institution indépendante créée par la Constitution. En 2009, elle avait déjà enquêté sur les prétendus liens entre les escadrons de la mort de Davao et le maire de l'époque, qui n'était autre que Rodrigo Duterte, mais aucune preuve n'avait été établie. Aujourd'hui, c'est simple. La Commission des droits de l'homme dit qu'elle est débordée et que la situation est inédite depuis la loi martiale, selon son propre président. Fin août, selon des statistiques internes, seuls 20% des cas étaient en cours de traitement, soit 170 affaires en tout. Côté Sénat, eh bien, les auditions débutées fin août reprendront seulement demain, après une suspension de plusieurs jours. À la télévision, on a vu des familles témoigner le visage recouvert, de peur qu'on les reconnaisse. Le problème, c'est que la sénatrice Leila de Lima, en charge de ces auditions, et principale opposante politique à Rodrigo Duterte, est accusée d'entretenir des liens avec les cartels de la drogue et certains Philippins ne lui font pas confiance.
Guerre anti-drogue, exécution de rue à Manille, votre grand reportage, Marianne Dardard, est à retrouver, bien sûr, à réécouter sur RFI.fr.
RFI, la